Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.
Bonjour, notre invitée Sabine Fèvre, elle est certifiée en lettres, diplômée de psychologie du développement et de l'éducation. Elle vient de sortir un livre qui s'intitule Adélaïde Hauteval, une conscience face au mal, le destin d'un médecin chrétien dans l'enfer d'Auschwitz. C'est un livre qui est préfacé de Daniel Vancier et qui est postfacé par Georges Hopsman. Il est paru aux éditions L'Harmattan dans la collection Graveur de mémoire. Sabine Fèvre, bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
C'est avec beaucoup de plaisir, d'autant plus que votre livre est tout à fait passionnant. Alors, parlons un petit peu de Adélaïde Hauteval. Qui est cette femme ?
Alors, Adélaïde Hauteval est une Alsacienne, fille de pasteur réformé. Et donc, elle grandit dans un petit village d'Alsace qui, à l'époque, était annexé à l'Allemagne. Donc, elle est née le 1er janvier 1906. Et elle a été élevée donc dans cette famille avec un père pasteur qui lui a transmis beaucoup de valeurs humaines et spirituelles. Un très fort attachement à la France, parce qu'il était très francophile, et d'ailleurs il avait demandé à pouvoir franciser son nom de Haas en Hauteval, qui est en fait la francisation du nom de la commune où il avait exercé son ministère de pasteur. Et il avait également transmis à Adélaïde un fort sentiment d'empathie pour le peuple de l'écriture, ce qui a fait dire à Heidi en 1972 que la vénération qu'elle éprouvait envers les Juifs n'avait jamais pu la quitter, car, disait-elle, je ne peux oublier qu'ils ont souffert plus qu'un autre peuple dans l'histoire. Et en fait, voilà, c'est pour un petit peu expliquer le contexte dans lequel cette femme a grandi et qui a ensuite permis d'expliquer le sens de son engagement, de ce qu'elle va vivre ensuite à Auschwitz, enfin dans sa déportation et dans sa confrontation au nazisme. Parce qu'en fait, c'est à partir de ce socle fondateur qu'on peut comprendre un petit peu ce qu'elle a vécu par la suite dans sa déportation à Auschwitz.
Mais pourquoi elle est déportée à Auschwitz ?
Alors en fait, elle se trouve arrêtée sur la ligne de démarcation en fin mai 42 pour avoir franchi donc cette ligne sans laisser passer. Elle n'avait pas de papier réglementaire et elle se trouve arrêtée donc à cet endroit et elle doit s'expliquer dans le bureau de la douane. Et à ce moment-là, elle voit arriver deux soldats allemands qui, d'après ce qu'elle a écrit, maltraitaient la France en parole. Et comme elle était très patriote, elle n'a pas pu résister et donc elle a répliqué face à ces deux soldats allemands et cela lui a valu 6 semaines de prison. Elle a écrit à ce sujet « J'ai été conduite à la prison de Bourges où je me trouvais avec d'autres détenus. C'est à ce moment qu'eurent lieu les rafles des Israélites dont beaucoup étaient amenés à la prison, rafles qui nous bouleversaient. Une juive a été placée dans ma cellule et je découvris qu'elle portait une étoile cousue sur sa veste. Pour attirer l'attention de la Gestapo, je m'en suis confectionnée une en papier », a-t-elle écrit dans ses mémoires. Et elle interpelle la Gestapo au sujet de cette étoile, elle leur dit « Mais pourquoi faites-vous cela de marquer des juifs? Les juifs sont des gens comme les autres. » La Gestapo lui demande de retirer ses propos. « Retirez vos propos et vous serez libérés. » Ce à quoi elle rétorque « Mais enfin, les juifs sont bien des gens comme les autres. » La Gestapo lui répond « Du moment que vous les défendez, vous partagerez leur sort. » Et quelques jours après, il lui apporte l'étoile juive avec une bande de toile blanche sur laquelle on trouve l'inscription « Amis des juifs ». Et c'est alors qu'elle est envoyée dès le lendemain. Enfin, pas le lendemain en fait, parce qu'elle est restée encore quelques temps, mais le 15 juillet, elle est emmenée au camp juif de Pithiviers.
Alors, Sabine Fèvre, alors qu'est-ce que Adélaïde Hauteval va découvrir justement pendant sa déportation? Qu'est-ce qu'elle va observer dans le camp d'Auschwitz?
Alors,
on pourrait peut-être même parler de ce qu'elle observait avant sa déportation.
Ben, en fait, elle n'a de cesse de s'indigner du traitement qui est infligé aux Juifs. Donc, et elle s'indigne littéralement dès Pithiviers, enfin dès Bourges, et puis ensuite à Pithiviers, elle s'indigne des conditions qui sont en fait à ces personnes, des conditions indignes. Et en fait, elle est chargée de s'occuper des soins parce qu'elle est médecin, médecin psychiatre, et donc elle est chargée des soins. À Pithiviers, elle doit trier les personnes qui sont, enfin, isoler les personnes qui sont atteintes de maladies contagieuses, et elle s'occupe des personnes malades et elle s'occupe en particulier des enfants. Et en fait, elle va assister dès Pithiviers à aux premières déportations de convois, au premier convoi. Et là, elle est confrontée à un système totalement absurde qui la révolte, en particulier le convoi ce qu'on appelait le convoi des mères, le convoi numéro 14, puisque les enfants sont séparés des parents. Et elle décrit des scènes absolument abominables. Elle ne comprend pas ce système qui est en train de se mettre en place sous ses yeux. Elle explique qu'elle ne peut pas concevoir exactement ce qui est en train de se passer. Et ce n'est qu'ultérieurement qu'elle va réaliser que tout ça a été une orchestration pour envoyer des familles entières à la mort. Et elle s'occupe en particulier des enfants, donc de ces 1200 enfants qui restent dans des conditions d'abandon totale, de misère affective. Et donc, elle s'occupe de ses enfants pendant 3 semaines à Pithiviers. Et au fil du temps, en fait, elle va être ensuite déplacée à Bonne-la-Rolande. Elle va continuer à s'occuper des personnes. Et de fil en aiguille, déportée à Auschwitz par le convoi du 24 janvier 43, où elle est envoyée à l'infirmerie, puisqu'elle était médecin. Et donc, on lui demande de s'occuper de l'infirmerie du bloc 22 de Birkenau, donc qui est une infirmerie, c'est un mot assez exagéré, parce qu'en fait c'est une sorte de mouroir hein, où les nazis avaient enfermé des personnes malades, et donc elle est censée s'occuper là des c'est une infirmerie qui en fait est exclusivement constituée de détenues allemandes, prostituées et criminelles dans triangle noir et vert. Exclusivement allemand, parce que les nazis ne voulaient pas associer même la lie du peuple allemand à des étrangers pourris quels qu'ils soient. Et donc Adélaïde arrive dans ce bloc 22 et elle va soigner ces femmes. En fait, elle est très mal accueillie, elle est accueillie par des menaces, etc., des orions, des injures, et elle s'occupe de ces femmes, elle les soigne. Et elle, en particulier, elle va empêcher les sélections au maximum de ce qu'elle peut faire. Elle va essayer de bloquer en fait les nazis dans leurs intentions de les exterminer, parce que c'était ça en fait à quoi elle était destinée. Finalement, c'est à servir de maillon dans la chaîne d'extermination, puisque les nazis lui demandaient d'établir des diagnostics d'incapacité de travail qui envoyaient ces pauvres femmes à la mort. Et donc elle, à peine arrivée, a déclaré qu'elle refuserait d'apposer ces mentions d'incapacité de travail sur les feuilles de maladie que les nazis voulaient la forcer à établir. Voilà, et donc voilà, de fil en aiguille.
Finalement, elle prenait des risques terribles, elle aurait pu le payer de sa vie.
Ah ben constamment, elle constamment pendant 3 ans quand même, ça a duré 3 ans, elle a risqué sa vie, oui, clairement, elle a risqué d'être exécutée à tout moment. Et en fait, c'est ça qui est le plus remarquable dans cette personnalité, c'est qu'elle n'avait pas peur. Enfin, elle avait une force en fait morale, spirituelle, qui lui permettait de résister à ces nazis, parce qu'elle avait la capacité de déceler les failles en eux et de voir qu'en fait c'était des faibles, ces personnes qui essayaient d'imposer leur puissance mortifère, destructrice autour d'eux. Ces personnes étaient des personnes faibles, et il suffisait, disait-elle, de s'opposer à eux de façon un peu frontale pour les faire céder. Et donc elle avait remarqué qu'elle faisait elle-même, elle impressionnait les nazis par ça, déjà parce qu'elle était très grande, et elle avait une capacité à paralyser en fait les nazis, ce qui est assez, assez remarquable en fait, et ce qui lui a permis de sauver beaucoup de vies. Ouais.
Alors après tous ces mois passés à Auschwitz, elle ressort d'Auschwitz dans quel état de santé physique et dans quel état d'esprit ?
Alors, elle sort très affaiblie physiquement, moralement, psychologiquement. Elle est très marquée. En fait, elle va rester très marquée pendant toutes les années qui vont suivre son retour à la vie civile. Elle va être très marquée psychologiquement. Elle refusera de parler de son expérience en camp de concentration. Elle refusera aussi de dire ce qu'elle a fait, parce qu'elle a eu vraiment une action très héroïque en fait pendant tous ces mois. mais elle a été au bout d'elle-même, en fait, au bout de sa capacité de résistance morale et physique, et donc elle est très très marquée. Cependant, c'est vrai qu'à l'époque, en fait, les personnes qui revenaient des camps de concentration n'étaient pas considérées comme étant des personnes prioritaires, et donc les soins dont ils auraient dû bénéficier n'étaient pas du tout mis en œuvre, d'autant qu'à l'époque, la prise de conscience sur les troubles psychotraumatiques n'était pas très très, enfin était déjà présente, mais pas très évoluée. En fait, la prise en charge n'a pas été faite correctement. Et de ce fait, Adélaïde, comme beaucoup d'autres, ont vécu avec ces traumatismes très lourds, parce qu'elle a vu beaucoup de gens mourir autour d'elle, énormément de personnes mourir. Elle a passé sa vie à se demander ce qu'elle aurait pu faire de plus. Et en fait, je pense que c'est la principale chose qui l'a traumatisée, c'est de se dire j'aurais pu en faire davantage. Voilà.
Sabine Fèvre, elle vit jusqu'en quelle année, Adélaïde Audeval?
Alors, elle est décédée en 1988, donc elle est décédée à l'âge de 82 ans. Et voilà, elle a eu une vie qui était très discrète, en fait, après son retour de camp de concentration. C'était une femme extrêmement modeste, très humble. Et donc, en fait, on a découvert après, enfin, à la fin de sa vie, on a découvert qu'elle avait écrit un journal. Qu'elle ne consentait pas à montrer, mais qu'elle a consenti finalement à montrer à quelques proches, puis à quelques amis. Et ce sont ses amis qui lui ont dit, il faut que tu publies, il faut que ces pages soient publiées pour qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé à Auschwitz. Et en fait, elle était tellement modeste, elle voulait pas qu'on la mette en avant. Voilà. Et ce qui faisait partie un peu de sa personnalité aussi. Donc elle a une vie extrêmement discrète. Elle a été médecin scolaire, elle jouait de l'orgue au foyer de Grenelle, elle avait tout un réseau amical et familial, et voilà. Mais elle a quand même tenu malgré tout à écrire quelques articles très importants sur lesquels moi je me suis personnellement penchée pour ma biographie. Ces deux articles qu'elle a publiés immédiatement après la guerre, mais sous pseudo, sous un pseudonyme, qui a été publié dans un livre qui s'appelle « Les témoins qui se firent égorger », donc aux éditions Défense de la France. Et là, en fait, elle traduit son expérience des camps de concentration, son expérience aussi spirituelle, parce qu'elle était quand même très très imprégnée par sa foi protestante, chrétienne. Et donc, je me suis beaucoup attachée à ces deux articles en particulier. Et puis, il y a eu d'autres choses aussi. Plus tard, en 1965, un procès célèbre l'a fait connaître un peu plus, de façon un peu plus internationale, on va dire. Et c'est là que les personnes ont découvert qui était Adélaïde Audeval. Et à ce moment-là, l'État d'Israël s'est dit, il n'est pas possible de laisser cette femme sans récompense. Et c'est ainsi qu'elle a été donc récompensée par la médaille des justes parmi les nations en 1965. Mais elle avait du mal à accepter cette médaille. En fait, elle l'a acceptée, bien sûr, mais elle a déclaré quelques temps plus tard que cette médaille, à ses yeux, ne devait revenir qu'à Dieu seul et pas aux simples mortels. Donc elle était tout le temps dans une sorte d'abnégation d'elle-même, qui est un petit peu sa marque de fabrique.
Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, Sabine Fèvre, nous devons conclure. Mais il faut quand même préciser qu'actuellement, des démarches sont faites pour que Adélaïde Audeval puisse rentrer au Panthéon, avec le soutien du Grand Rabbin de France d'ailleurs.
Effectivement, un comité s'est mis en place sous la présidence du grand rabbin Haïm Korsia et de Christian Krieger, qui est le président de la Fédération protestante de France, pour demander le transfert d'Adélaïde Audeval au Panthéon. Et donc c'est un comité qui s'est mis en place récemment. La réflexion dure depuis quelques mois. Et un site est créé actuellement, donc adelaideoval.fr, qui recueille des signatures de toutes parts pour demander que Adélaïde Audeval soit transférée au Panthéon, parce qu'en fait sa vie a une valeur de symbole. Alors elle aurait peut-être pas accepté d'être transférée au Panthéon, mais enfin il faut quand même considérer que sa vie a une valeur de symbole et que ce symbole la dépasse. Et que dans ces temps très troublés où l'antisémitisme est de retour partout, voilà, cet exemple permettrait certainement d'unifier la France, voilà, autour d'une figure exemplaire qui nous incite à la fraternité, ce serait quand même très beau.
Sabine Fèvre, alors nous arrivons au terme de cet entretien. Je voudrais rappeler le titre de votre ouvrage et Adélaïde Hauteval, Une conscience face au mal, le destin d'un médecin chrétien dans l'enfer d'Auschwitz, un livre préfacé par Daniel Vancier, bien connu à Nice, et postfacé par Georges Hauptmann. C'est un livre qui est paru aux éditions L'Harmattan dans la collection Graveurs de mémoire. On peut écouter cet entretien sur notre site rcnradio.info. Sabine Fèvre, je vous remercie.
Pause littéraire sur RCN. Les livres, les auteurs, avec Jean-Jacques Bitton.